Commentaire, Romains chapitre 2, verset 12. Je lis, car autant lesquels allégalement il faut taire, allégalement aussi se dépériront, et autant lesquels dans une loi il faut taire, par une loi ils seront jugés, car non les auditeurs de la loi sont justes à côté de le Dieu, mais les faiseurs de la loi seront justifiés. Okay. Alors je précise, allégalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un adverbe qui veut dire sans loi, à privatif, à légalement. Donc adverbe, c'est-à-dire c'est la manière dont on fait la chose. Il faut taire de quelle manière? Allégalement. C'est-à-dire il faut taire grosso modo sans loi. Enfin, c'est pas grosso modo, c'est comme ça, il faut taire sans loi. On aurait pu dire il faut taire sans loi, mais ça aurait pu être ambigu éventuellement avec une autre partie du texte. Enfin, bref, donc j'ai préféré mettre allégalement. Bref. Alors, que comprendre de ces versets, d'accord, pour lesquels le verset 12 et le verset au centre, finalement, de ces versets qui vont du verset 9 au verset, je dirais, 15. On pourrait peut-être aller jusqu'au 16, mais pour l'instant, je vais aller jusqu'au 15. Alors, je prends ce petit passage-là pour commenter le verset 12. En gros, je vais paraphraser un peu parce que la traduction que j'ai, si je la lis comme ça au stade où elle est, ce ne sera pas forcément compréhensible. Je vous laisserai la consulter sur le site internet et prendre le temps d'essayer de la comprendre. Parce que ce n'est pas une traduction à ce stade qui se lit une fois et se comprend une fois. C'est une traduction qui demande, qui est faite pour l'étude, en fait, finalement. Bref, voilà. Donc en gros, Paul nous dit au verset 9 à 11, 9 à 10 même, on va dire, voilà, que le mal, grosso modo, soit pour celui qui fait le mal et le bien pour celui qui fait le bien. Et il précise en disant que ce qu'il dit là, c'est pas que pour les juifs. Il dit, c'est pour les juifs en premier, mais aussi pour les non-juifs, pour les grecs. Alors, il va justifier ce dernier argument en disant finalement d'une certaine manière que c'est pour tout le monde, en disant qu'il n'y a pas de combine de face devant Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Et que ce fait que le mal soit pour le que le mal soit celui qui fait le mal et le bien, celui qui fait le bien, grosso modo, c'est une espèce de présente vérité générale, si on peut dire. Sauf qu'en vérité, c'est pas un présent de vérité générale qui sort de n'importe où. Juste comme ça, qui dit, ah, c'est le mal pour le mal au mal et le bien au mal. Non, c'est pas un truc comme ça. C'est un truc qui sort d'où? Ça sort de la loi, en fait. Apparemment, de ce que je vois du verset 12 jusqu'au verset 15, n'est-ce pas? C'est ça, jusqu'au verset 15. Alors, pourquoi? Parce que juste après, il parle de quoi? Comment il justifie son propos en parlant de la loi? Il parle de la loi, il parle que de ça, n'est-ce pas? Vraiment beaucoup de ça, du verset 12 au verset 15. Pourquoi? Parce que c'est ça, finalement, qui justifie ces versets 9 à 10, n'est-ce pas? Il y a combien de quarts dans ce bout de passage? Verset 12, quart. Verset 11, je crois. Non, verset 13, quart. C'est 14 quarts. Il y a plein de quarts parce qu'il l'utilise pour justifier. Il utilise ces paroles qui suivent le quart pour justifier. Alors, donc il nous dit, il n'y a pas de combine, il n'y a pas de favoritisme par rapport au visage, si on peut dire, tout simplement de favoritisme à côté de Dieu. Voilà, si on peut dire. Et il justifie ça en disant, car autant lesquels a également il faut taire, a également aussi ils se dépérieront. Donc, autant qui sont à fauter sans loi, ils périront sans loi. Alors, après, il va faire une parenthèse en parlant spécifiquement des Juifs, en disant, et autant lesquels dans une loi il faut taire, par une loi ils sont jugés. Car non les auditeurs de la loi sont juste à côté de le Dieu, mais les faiseurs de la loi sont justifiés. Donc en gros, il dit dans cette parenthèse que toute personne qui faute dans une loi sera jugée par une loi. Parce que c'est pas les auditeurs de la loi qui sont juste à côté de Dieu, mais c'est les faiseurs de la loi qui seront justifiés. Ok? Donc ça veut dire que un juif qui garde pas la loi, d'accord, alors qu'il a la loi, et ça lui a été donné la loi, il va être jugé. Il va être jugé. Sous-entendu, il va connaître les verdicts de Dieu, n'est-ce pas? Dont Paul parle au début du chapitre 2. Sous-entendu, le mal pour lui, n'est-ce pas? Donc dans cette parenthèse, il parle notamment des juifs qui ont la loi. Et juste avant, il parle de ceux qui fautent sans loi. C'est-à-dire, d'une certaine manière, des non-juifs, des Grecs, si on peut dire. Des Hellènes. Et étrangement, il dit fauter sans loi. Comment c'est possible, d'une certaine manière? Parce que la faute, elle est relative à la loi, selon 1 Jean 3, 4, n'est-ce pas? La faute, c'est la transgression de la loi, nous dit Jean 3,4. Donc comment quelqu'un peut fauter sans loi? Normalement, la faute, elle est relative à la loi, à la Torah. Mais comment, s'il n'a pas la loi, il peut fauter? Il dit, c'est ce qu'il dit, il dit, il faute allégalement, sans loi. Comment c'est possible? Ben, ça, il le dit justement au verset 14, après la parenthèse. Il explique, du verset 14 au verset 15, comment c'est possible, grosso modo. Parce que ce verset 12, il concerne qui finalement? Il concerne ceux qui fautent en n'ayant pas la loi. Mais qui n'a pas la loi de base? Ce sont les non-juifs. Donc il concerne les Grecs d'une certaine manière. Et il parle indirectement des Grecs et des Juifs par rapport en fait à ce qu'il vient de dire juste avant quand il dit que voilà, il y a le mal pour le mal, le bien pour le bien, pour le juif. Puis pour le grec, et qu'il n'y a pas de favoritisme, genre ce ne serait pas que le juif ou que le grec. Donc il montre ça en disant que voilà, les grecs ils sont concernés par ça, de base, les non-juifs ils sont concernés par ça, et eux les juifs ils sont concernés par ça. À chacun en fait, leur loi. Sauf que il dit pas les juifs, les grecs. C'est plus grand que ça, c'est plus fort que ça, parce que c'est pas selon. Il s'agit pas de. C'est pas une combine de face. Il s'agit pas de dire ah t'es grec, pour toi ce sera comme ça. Non. C'est de manière générale. Celui qui se retrouve, celui qui a une loi, à qui on a donné une loi, qui a une loi, qui est dans une loi, celui-là, s'il faute, il sera jugé par une loi. Qu'il soit grec ou juif. Maintenant, pareillement, si le juif. En fait, on ne peut pas vraiment dire le juif faute allégalement sans loi parce que il a été donné une loi. Donc, ce serait pas forcément évident de dire ça avec ce texte. Mais du coup, finalement, ce verset 12 et 13, on peut le découper un peu pour le verset 12 comme s'adressant surtout, en fait, c'est ça le mot, surtout aux Grecs, et le verset 13 comme s'adressant surtout aux Juifs. Mais du coup, le verset 14, lui, il va revenir sur ce qu'il a dit juste avant la parenthèse, donc il va revenir sur ce verset 12 en l'expliquant, en fait, en expliquant finalement comment un Grec et un non-Juif peut pécher en n'ayant pas la loi. Bien qu'en vérité, on peut comprendre d'une certaine manière comment ils puissent pécher, mais dans le sens que voilà, il suffit qu'on le voit ne pas garder le Shabbat pour qu'on dise ah, il a péché par exemple. Sauf que en réalité, là, dans le passage, il s'agit plutôt de conséquences au péché. Donc là, c'est-à-dire au verset 9, il veut parler d'oppression, d'étroitesse d'espace sur toute âme. Et puis même un peu avant, voilà. Enfin, je veux dire, on sent vraiment la conséquence de la faute qui est là. Et la conséquence de la faute, logiquement, elle arrive sur celui. En tout cas, elle arrive surtout sur celui qui faute en conscience, si je puis dire, de faute, plutôt que celui qui a fauté par manque de connaissance, par inadvertance. Alors, il va dire. Au verset 14, verset 15, qu'en fait, ceux qui n'ont pas la loi, donc là il va parler des ethnies notamment, d'accord? Enfin, c'est-à-dire des nations, donc c'est-à-dire des non-juifs. Donc ceux qui n'ont pas la, donc les non-juifs qui n'ont pas la Torah, d'accord, quand ils font par nature les choses de la loi, donc par exemple qu'ils honorent leur père et leur mère, d'accord, bien qu'ils n'aient pas la Torah dans leurs mains, eh bien ils deviennent, ils sont à eux-mêmes une loi. Pourquoi? Parce que finalement, on pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'ils honorent leur père et leur mère? On pourrait dire ça de ces non-juifs. Pourquoi est-ce que ils honorent leur père et leur mère s'ils n'ont pas la loi? Je veux dire, pourquoi? Eh bien, Paul dit que ces non-juifs, en agissant comme ça, montrent en fait le travail de la loi qui a été fait au-dedans d'eux, qui a été écrit dans leur cœur. Après, il va, comment dire, il va continuer en parlant de leur conscience, qui témoigne de cette réalité, co-témoignante, qui témoigne de cette réalité, en ce que finalement, on voit qu'il y a une espèce de combat, même chez eux, même chez les non-juifs, de combat entre finalement ce qui vient de Dieu, la loi, d'accord, qui est bonne et qui font de temps en temps, parce qu'ils peuvent aussi fauter, d'où le verset 12. Mais il y a une espèce de combat entre justement cette loi, d'accord, qui va faire de bonnes choses, une bonne conscience, avec justement la chair, logiquement, qui va ne pas vouloir honorer le père et la mère, qui va ne pas vouloir travailler, etc. Donc il y a la conscience de ces non-juifs qui va batailler un peu. Et ça rejoint exactement ce que dit Paul quand il dit, voilà, l'esprit et la chair combattent, tout ça. Parce que la loi, c'est quelque chose qui vient de l'esprit. Et oui, ça ne vient pas de la terre, la loi. Ça a été donné du ciel sur le mont Sinaï, etc. Donc c'est quelque chose qui vient d'en haut. Et c'est quelque chose que la chair, du coup, n'aime pas, entre guillemets. C'est quelque chose qui est opposé à la chair, si on peut dire. Donc, le fait que leur conscience agisse d'une manière un peu comme ça, un peu contraire, en fait, de temps en temps, un peu de manière un peu belliqueuse, ça témoigne, en fait, qu'il y a quelque chose qui n'est, qui est, comment dire, qui est extérieur à eux, qui est venu en eux, et qui crée, du coup, cette guerre en eux. Parce que s'il n'y avait pas eu quelque chose d'extérieur en eux qui serait venu en eux, il n'y aurait pas eu de guerre, il y aurait eu une espèce d'unification, de continuité, d'unité. Mais là, parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui est venu dans la personne, il faut gérer ça, et il faut soit l'accepter, soit ne pas l'accepter, combattre ou pas combattre, etc. Combien il y a d'enfants qui disent non, je veux pas, etc., qui n'ont pas envie d'obéir à leurs parents. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas d'eux, ça leur est imposé. Et du coup, ils peuvent batailler avec ça, etc., etc. Pourtant, c'est de bonnes choses, en général, n'est-ce pas? Donc voilà. Et du coup, Paul dit que ces gens-là sont sans loi, d'accord? Ils sont sans Torah, mais ils sont loi à eux-mêmes. Ils sont loi. Eux sont loi. Eux, ils sont loi. Bien qu'étant sans loi, ils sont loi. Donc ils peuvent fauter vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de ce qui est vis-à-vis de leur cœur dans lequel est écrit la loi. Vis-à-vis de leur cœur dans lequel est écrit la loi. Donc ils sont sans loi, en ce qu'ils n'ont pas la loi, d'accord? Ils sont non-juifs, en ça ils sont sans loi. Mais ils fautent en ce que de temps en temps ils vont contre leur conscience qui témoigne, qui co-témoigne de ce qui est écrit dans leur cœur, de la loi, de la Torah qui est écrite dans leur cœur. Donc la conscience du non-juif, elle va lui dire, honore ton père et ta mère quand celui-là, il n'a pas forcément envie de le faire, ou quand il ne le fait pas, ou quand il ne l'a plus fait. Et où est-ce que je voulais en venir? La conscience, du coup, elle témoigne au non-juif que... Bon, en fait, de toute façon, je pense que si je continue, je vais me répéter. Voilà, je pense que je vais beaucoup me répéter si je continue. Je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Je pense que j'ai donné mon interprétation. J'espère qu'elle est claire. Donc c'est assez fort, je trouve, comme passage, vraiment. Et du coup, finalement, il en arrive à... Finalement, on en conclut que le non-juif comme le juif, tous les deux peuvent vraiment pécher. Le non-juif, en ce que il peut pécher la Torah, comment dire, en transgressant sa sainte conscience qui témoigne de la sainte Torah qui est dans son cœur. Donc de cette manière-là, le non-juif, il peut fauter, entre guillemets, sans loi, allégalement. Et de l'autre côté, on a le juif qui, lui, bah, peut fauter en ayant la Torah sous ses yeux. Donc, ces deux catégories de personnes, juifs et non-juifs, peuvent fauter, peuvent pécher, c'est-à-dire peuvent faire le mal, peuvent transgresser la loi. L'un, ça va être la loi parce qu'il va l'avoir notamment sur du papier, et l'autre, ça va être la loi parce qu'il va l'avoir notamment dans son cœur et dans sa conscience. Donc les deux catégories de personnes, les juifs et les non-juifs, ils font face à la loi, d'accord? Ils la voient devant leurs yeux, grosso modo. Mais avec un support différent. Il y en a un, ça va être le papier, grosso modo, et l'autre, ça va être la conscience, le cœur. Mais en fin de compte, la loi, c'est la même. Voilà. Et donc, finalement, ils sont dans la même situation, si je puis dire, sauf que c'est des situations quand même un peu différentes. Le support est différent, et du coup, ça a d'autres conséquences encore. Mais il y a cette réalité qui est semblable. Et vu qu'ils ont chacun la loi devant leurs yeux, si je puis dire, eh bien, ils ont cette possibilité de la transgresser. Et pour le non-juif, en général, la loi, elle se montre à lui, elle revient à lui, si je puis dire, elle se rappelle à lui, elle lui fait des rappels, entre guillemets, quand justement il la transgresse. Ce qui est très sain en soi, n'est-ce pas? Ce qui est très sain, n'est-ce pas? Donc, en gros, on conclut que, voilà, que tu sois un non-juif, que tu sois un hellène ou que tu sois un juif, tu peux transgresser, c'est-à-dire tu peux faire le mal, mais genre le mal défini aux yeux de Dieu, pas le mal en mode la tradition dit que c'est pas bien de se laver les mains à tel moment, à 3h moins quart ou je sais pas quoi. Non, là je vrai mal, le mal défini par le Seigneur. Même si tu es un non-juif, tu es concerné par ça en fait, comme je viens de le dire. Et donc, puisque le non-juif comme le juif peuvent faire le mal, et de surcroît aussi le bien, parce que finalement, en ayant connaissance du mal, le non-juif a aussi connaissance du bien. Quand sa conscience le condamne parce qu'il n'a pas honoré son père et sa mère, il comprend que si il honore son père et sa mère, sa conscience ne va plus le condamner. Donc, en fait, le juif et le non-juif cette possibilité, cette possibilité de faire le bien ou le mal, mais vraiment le bien ou le mal avec un B et un M majuscule. Et donc, finalement, ils ont cette opportunité de soit recevoir oppression et étroitesse d'espace sur tout âme d'être humain, d'accord? Celui se mettant au travail complètement le malicieux, d'ailleurs en outre premièrement, et enfin voilà. Donc, ces versets du verset 9 au verset 11 s'expliquent finalement. Quand on comprend ces versets 12 à verset 15. Et donc finalement, en ce que les non-juifs et l'hélène, eh bien, sont concernés par le verset 9 et 10, d'accord, selon ce qu'on vient de dire, on comprend en quoi est-ce que il n'y a pas de combine de face à côté de Dieu, il n'y a pas de favoritisme à côté de Dieu. Parce que finalement, ces deux catégories de personnes-là se retrouvent un peu dans la même situation. Alors, le juif peut-être un peu plus intensément parce que lui, je pense déjà que la loi est aussi gravée dans son cœur. Et puis en plus, donc, il a la loi devant ses yeux, grosso modo, n'est-ce pas, quand il a la Torah devant ses yeux. Et puis en plus, c'est la Torah explicite, donc il y a vraiment tous les commandements. Alors que le non-juif, il y a la loi écrite dans son cœur. Mais est-ce que c'est toute la loi sans rien qui manque? C'est une question qu'on peut poser. Voilà, donc En tout cas, le juif, lui, c'est sûr que normalement, il y a toute la loi qu'il a. Et voilà. Donc, le juif, lui, c'est sûr que il est à l'intensité max possible, n'est-ce pas? Alors que le monde grec, bon, ce sera, c'est pas aussi sûr, c'est pas aussi garanti, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et puis, dans l'histoire de l'humanité, si je puis dire, on voit bien que les juifs, c'est un peuple particulier. D'une part, soit parce qu'il a beaucoup souffert, soit parce qu'il est beaucoup persécuté, soit parce qu'il réussit très bien. Donc, soit parce qu'il a beaucoup, soit parce qu'il a un bien très fort, d'accord? Ils sont très riches, populaires, etc. Soit c'est l'inverse, c'est terrible, génocide, nazisme, guerre en Israël, etc., etc. Donc, c'est un peu ces deux extrêmes qu'on retrouve beaucoup moins, je trouve, chez les non-juifs. Et je pense que ça, c'est plus ou moins dû au fait qu'ils ont toute la loi, d'une manière aussi beaucoup plus simple, entre guillemets, beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus, comment dire, bon, je restais sur simple, alors que les non-juifs, eux, c'est un peu différent. Voilà. Donc, voilà pour ce commentaire du verset 12 et 13. Et petit complément pour dire que certaines personnes peut-être pourraient dire, oh ok, mais du coup moi je suis non juif, du coup en fait je suis jugé selon ma conscience quoi. Donc j'aurais pas besoin de la loi, etc. Vu que de base on m'a pas donné la loi, etc. Mais ça c'est faux pour les chrétiens. Parce que les chrétiens on leur a donné la loi, n'est-ce pas? La loi, ils l'ont dans leurs mains, n'est-ce pas? Sinon, qu'est-ce que ça veut dire que ce que dit Paul quand il dit aux Corinthiens, je parle à des gens qui connaissent la loi, n'est-ce pas? Ou même aux Galates, n'est-ce pas? Comment on comprendrait tout ce que Paul dit, tout ce que le Nouveau Testament dit, finalement? Comment on comprendrait tout ça si on n'a pas la loi? Non, arrêtons. La vérité, c'est que la loi a été donnée, bah, de toute façon, par Moïse. Hein, c'est ce que exactement dit, c'est exactement ce que dit l'évangile selon Jean. La loi a été donnée par Moïse. Et on a connu la loi, n'est-ce pas? Elle nous a été donnée, n'est-ce pas? Donc on peut pas dire, oh non, moi j'ai pas la loi, je suis sans loi, donc, je me laisse avec ma, je me laisse tout seul avec ma conscience, etc. Non. Ça marche pas comme ça, si on peut dire. Et dernière chose encore, je précise, quand il dit, verset 13, il me semble, que c'est les faiseurs de la loi qui seront justifiés, c'est aux yeux des hommes, évidemment. Évidemment. C'est comme dans Jacques 2. Et aussi, du coup, j'ajouterai que finalement, ce passage ne dit pas de ne pas garder la loi. Il ne dit pas non plus que la loi ne serait que pour les juifs. Ce qui. Donc, non, il dit pas ces choses-là. Mais au contraire, il dit plutôt que le non-juif, il est glorifié, il est élevé, il est béni, si on peut dire, avec par le peu de Torah qu'il a en lui, qui est gravé sur son cœur, si je puis dire. Et d'une manière plus ou moins semblable, ou dans un fonctionnement un peu semblable, il n'est pas bien de par le peu de Torah qu'il a en lui. Ça rejoint un peu ce que je disais par rapport à l'intensité. Voilà, il est oppressé, je dirais, étroit d'espace sur l'âme, si je puis dire, pour reprendre les termes, de par les transgressions du peu de Torah qu'il a fait en lui. Et pareillement, il est glorifié, il a de la valeur, il est en paix, grâce au peu de Torah qui est en lui, si je puis dire. C'est ce que je comprends. Quand je dis grâce au peu de Torah, c'est soit grâce au fait de l'avoir accompli pour les bonnes choses, ou alors au fait justement de les avoir transgressés pour ce qui est plus mauvais. Ce qui finalement glorifie la Torah, je trouve, en lui donnant une énorme place, en fait, une énorme puissance. La puissance de glorifier, de donner du de la valeur, de donner la paix. Et à l'inverse, là aussi, la puissance d'oppresser, etc. Donc ce passage, finalement, il met en avant, je trouve, la Torah. Il vient la chercher chez les non-juifs. Là, Paul, il est en train de se dire, ok, je vais essayer de trouver de la Torah chez les non-juifs. Vous imaginez à quel point il doit aimer ça? À quel point il doit chérir ça et vouloir défendre ça, et à quel point ça doit être sa vie, n'est-ce pas? Donc ce passage n'est pas du tout anti-Torah, pas du tout. Il est plutôt pour pro-Torah, je trouve. Alors maintenant, j'aimerais juste aller en fait au verset 16, car ce verset 16, à ma compréhension, est la continuité du verset 12, 12a. C'est-à-dire que enfin, il faudrait comprendre d'une certaine manière les choses comme ça, car autant lesquels allégalement il faut taire, allégalement aussi ils se dépériront en pleine journée lorsque le Dieu jugera les actes cachés des êtres humains selon mon message bien par le fils d'Hachem, grosso modo. Ok? Donc, là, le verset 16, quand on le lit comme ça, on a l'impression qu'il parle du jour du jugement dernier, grosso modo, du jour où le Seigneur, ou Hachem, va juger. Pourquoi? Parce que il dit les êtres humains. Il dit lorsque le Dieu jugera les actes cachés des êtres humains, c'est-à-dire des gens en général. Lorsque Dieu jugera les gens, grosso modo, en général. Et ça, le moment, la journée où Dieu jugera les gens en général, ça fait vraiment penser au jour du jugement dernier. Parce qu'il n'y a pas un jour en particulier, à ma connaissance, où il va dire, tiens, là, j'ai jugé tout le monde. Voilà. Mais en réalité, il juge tout le monde, à ma connaissance, en permanence. Mais là, le fait que ce soit précisé, lorsque le Dieu jugera les actes cachés des êtres humains, il dit lorsque le Dieu jugera les êtres humains, grosso modo. C'est-à-dire, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui arrive tout le temps, quoi. On a l'impression que c'est quelque chose qui va arriver, ou qui arrivera à un moment donné, et pas qui est dans la continuité. Parce que là, aujourd'hui, on est soumis d'une certaine manière à un espèce de jugement continuel qui est inscrit dans la Torah, qu'on a eu juste avant dans le chapitre 2. C'est-à-dire, fais le mal, tu vas recevoir le mal, fais le bien, tu vas recevoir le bien, grosso modo. Il y a cette espèce de réalité qui est présente, n'est-ce pas, aujourd'hui. Mais là, il dit lorsque Dieu jugera. Sous-entendu, au moment où ça arrivera. À un moment donné, ça va arriver. De quoi? Que Dieu juge les humains, grosso modo. Donc ça fait vraiment penser au jour du jugement dernier. Et donc, il nous dit quoi? Quand on relit ce verset 16 au verset 12, il nous dit que dans cette journée du jugement dernier, eh bien, il y en a qui vont mourir. Et ça, on le sait. Et que ces gens qui vont mourir, apparemment, ce sont des gens qui auront fauté allégalement. Alors, nous, on a vu juste avant que ce verset 12, ce début de verset 12, on l'avait interprété comme étant rattaché aux non-juifs. Mais du coup, si on rattache ce verset 12 aux non-juifs, alors on rattacherait aussi ce verset 16 aux non-juifs. Sauf que quand on a rattaché le verset 12 et le verset 16 ensemble, on comprend que ces personnes qui sont concernées par ce début du verset 12, grosso modo, vont en enfer parce qu'ils périssent Au jour où ils se font juger, grosso modo. Sauf qu'on sait que le jour où on est jugé, soit on périt, effectivement, c'est-à-dire qu'on va en enfer, selon Apocalypse chapitre 20, verset 14 et 21, verset 8, soit on ne va pas en enfer. Et auquel cas, bah, on est avec Christ. Mais si donc on va en enfer au jour du jugement dernier, c'est que. Enfin, je veux dire, c'est qu'on n'a pas été sauvé, quoi. Mais là, selon l'interprétation qu'on a eue, eh bien, ces gens qui n'auraient pas été sauvés, c'est-à-dire qui iraient en enfer au jour du jugement dernier, ça serait apparemment des non-juifs. Selon l'interprétation qu'on a eue du début du verset 12 par les versets 14 et 15. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça? Comment on gère tout ça? Alors, une manière de comprendre, d'interpréter la chose, c'est tout simplement de dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement indirectement, c'est que les chrétiens ont reçu la loi. Et ça va dans le sens que la loi est un pédagogue qui mène à Christ. C'est-à-dire que la loi permet d'amener au Seigneur. Et j'ai envie de dire, d'une certaine manière, c'est nécessaire. Parce que à travers la loi, on prend connaissance, si je puis dire, qu'on est un fauteur aux yeux d'Hachem. Et prendre conscience de cet état de nous, de ce statut que on a finalement, eh bien, c'est nécessaire pour demander le salut. Parce que si on se croit parfait, si on pense qu'on n'a rien à se reprocher, eh bien, on n'a pas de raison, logiquement, de demander à ce qu'on soit sauvé. Donc, la loi, c'est limite quelque chose de nécessaire, de fondamental, si je puis dire, pour être sauvé, pour nous faire prendre conscience qu'on a besoin d'être sauvé, et donc pour être sauvé. Donc, et puis on le voit dans les épîtres que Paul, lorsqu'il parle aux chrétiens, ou bien Pierre, ou bien Jacques, on voit bien que la loi est présente dans leur bouche. Quand ils citent la Torah, ils citent la Torah à des chrétiens. Donc c'est que les chrétiens sont en mesure de comprendre de quoi il s'agit. Et que donc, ils connaissent qu'il y a une loi, que la loi a été donnée, qu'elle fait encore sens et autorité, etc., etc. Donc, ça ne les rend plus sans loi. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient sans loi, pour les chrétiens d'origine non juive. Et puis, une fois chrétiens, ils sont devenus avec loi. Donc, le chrétien, finalement, il n'est pas concerné par ce début du verset 12. Mais ceux qui sont concernés par ce début du verset 12, ce sont ceux, finalement, qui ne sont ni chrétiens ni juifs. Donc, par exemple, les athées. Et finalement, si la personne n'est pas chrétienne, elle n'est pas sauvée. Donc, ça fait sens que si elle arrive dans cet état au jour du jugement dernier, elles dépérissent. Tout simplement. Donc finalement, ce verset 12, par rapport au verset 16, on peut le comprendre de la sorte. En comprenant finalement que, apparemment, dans la bouche de Paul, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est sans loi, de par le fait qu'il ait reçu la loi. Voilà. Bien que, en vérité, oui, enfin non, voilà. Donc c'est intéressant parce que finalement, on pourrait éventuellement en déduire que dans l'annonce de l'évangile qu'on ferait à des non-chrétiens, il faudrait forcément qu'on donne la loi à la personne pour justement qu'elle puisse prendre conscience de sa faute. Et à travers cela, finalement, ça ne la rendrait plus sans loi. Et puis on voit bien finalement que Paul, quand il parle du verset 12, à travers les versets 14 et 15, il ne parle pas de chrétien. On voit bien ça, versets 14 et 15. Il ne parle pas de chrétien, versets 14 et 15. On est d'accord. Il parle de personnes qui n'ont pas eu Christ et qui ne sont pas juives. Il parle des ethnies, voilà, comme il dit. Il parle pas des chrétiens. Il dit pas vous, les chrétiens, nous, les chrétiens. Mais il dit les ethnies qui n'ont pas la loi. Il parle de ces gens-là, verset 12. Et ces gens-là, s'ils ne se repentent pas, grosso modo, si ils ne croient pas au Seigneur, s'ils ne deviennent pas chrétiens, bah, ils vont périr quand Hachem jugera les actes cachés des êtres humains, grosso modo. Donc voilà. Voilà comment on peut comprendre tout ça. On pourrait aussi dire éventuellement que au verset 12, si on va être encore plus littéral, là Paul parle de gens qui font des choses, à savoir fauter, de manière allégale. C'est-à-dire de manière sans loi, grosso modo. Mais le chrétien, lui, il ne peut pas faire des choses allégalement. C'est-à-dire de manière sans loi. Parce que il a reçu, il a pris conscience qu'il y avait la loi papier, etc. Il a pu consulter la loi papier, si je puis dire, grosso modo. Donc, un chrétien, en ce qu'il a connu, si je puis dire, la loi de Moïse, à cause de ça, il ne peut plus rien faire comme s'il ne l'a jamais, comme s'il ne l'avait jamais connu. C'est-à-dire sans allégalement. Alors qu'une personne qui n'a jamais su, par exemple, que la loi a été donnée à Moïse, d'accord, qui n'a jamais connu la loi plus que ce qui a été gravé dans son cœur, elle, ce sera vraiment, grosso modo, allégalement qu'elle fautera. N'est-ce pas?